Henry Folk, L'âge de plomb. Chapitre 6. Monsieur Galfaut. Or, il semblait décrété par un arrêt du destin que Monsieur Parmesif, infime parcelle d'humanité, dut jouer, soit par lui-même, soit par les siens, un rôle important dans cette aventure d'intérêt universel. Abandonnant pour quelques semaines, sur l'autorisation du ministre, les affaires de la colonie aux mains du triste M. Saumêtre, il suivit l'exemple de toutes les personnes qui, dans les régions atteintes, avaient le pouvoir de se déplacer. Il emmena sa femme et sa fille dans le nord, en l'espèce à Neuilly-sur-Seine, ville natale où il possédait une coquette maison. La France se trouvait encore à l'abri. Mais les esprits, comme partout ailleurs à la même latitude, s'y trouvaient singulièrement surexcités. Parmesif, qui ne se faisait pas faute de proclamer son prochain retour au Gabon, dans le cercle de ses connaissances, était unanimement admiré. Le ministre lui promit la croix d'officier de la Légion d'honneur et, comme Saumêtre était en somme tout à fait au courant du service, Parmesif décida d'attendre, pour regagner Libreville, une décroissance de l'épidémie. Avec une sorte d'horreur avide, il suivait les récits des journaux relatant les progrès quotidiens du fléau et il parcourait un soir la dernière heure de l'intransigeant, quand il lut. Un de nos jeunes et éminents savants, M. Stéphane Galfaut, a déposé aujourd'hui sur le bureau de l'Académie des sciences un rapport relatif au fléau, document encore secret, mais dont une autorité hautement qualifiée a pu nous affirmer qu'il révèle la cause et partant le remède de la lèpre universelle. Le monde apprendra demain de grandes choses. Les autres journaux du soir portaient une rédaction à peu près identique. Galfaut, dit-il à sa femme, ne serait-ce point... Mais oui, s'écria-t-elle, Stéphane Galfaut est un de mes cousins, le fils de l'oncle Victor. Nous étions très liés. Où demeure-t-il ? Attends. Madame Parmesif se rendit dans sa chambre. Elle revint avec un petit livre d'adresse et trouva son mari le chapeau sur la tête. S'il n'a pas déménagé, dit-elle, son adresse est 17 bis rue Herschel. Parmesif bondit dans l'avenue de Neuilly, puis dans une automobile. Galfaut n'avait pas déménagé. Mais après avoir sonné trois fois au seuil du logement que son cousin par alliance occupait au quatrième étage, Parmesif s'entendit répondre par une bonne massive et rogue que M. Galfaut ne recevait pas. « Vous n'êtes pas le premier qui soit venu aujourd'hui, et tenez, vous n'êtes pas le dernier. » En effet, un monsieur qui montait l'escalier s'arrêtait sur le palier et demandait « Monsieur Galfaut ?» La bonne répondit aux deux visiteurs « Personne, monsieur, ne reçoit absolument personne. Il a des ordres. »« Pardon, fit Monsieur Parmesif, voici ma carte. Je suis son cousin de passage à Paris. J'arrive tout exprès du Gabon pour communication urgente. Son cousin, dites-lui bien. » La bonne prit d'un air dégoûté la carte de Parmesif et referma la porte. Je crois, dit celui-ci au visiteur, que vous n'avez aucune chance d'être introduit. Si fait, monsieur, je suis le représentant d'une grande revue scientifique. Rien à faire avec nous, déclara Parmesif. Ah, mais. La porte s'était rouverte. Entrez-vous, lui dit la bonne. « Madame, je... » fit le représentant. « Non, pas vous. » Elle referma violemment la porte. C'est malheureux, prononça Parmesif, qu'on ne puisse pas être chez soi. Où est mon cher cousin ? La femme de chambre l'introduisit dans un petit salon sommairement meublé. Attendez, dit-elle. Et elle sortit. Une chance, songea Parmesif, que Galfaut ait le sentiment de la famille. Il s'assit sur un vieux fauteuil de panne verte. Peu après, il vit entrer un maigre garçon, pâle, d'une trentaine d'années, à la longue barbe, au sourire doux, au regard bleu très fin, très bon. Il se jeta dans les bras du jeune homme. « Mon Galfaut, mon vieux cousin !» Il raconta très rapidement sa venue en France avec sa famille et poursuivit. « Je vais droit au fait. Plus tard, j'espère, tu me détailleras ta vie, tes travaux. Je sais que tu es un grand savant. »« Depuis hier soir, » dit en souriant Galfaut. « Soit, je ne me fais pas plus averti que je ne suis. Ma femme, ta cousine, est désespérée. Chauve, mon pauvre ami. Absolument chauve. Ma fillette est très mal en point. Alors, il est bien vrai que tu as trouvé ? Oui, hier. Mon rapport est depuis quelques heures entre les mains du doyen de la faculté des sciences. Il sera publié demain. Alors, la cause du fléau, parle vite. Mon cher cousin, répondit Galfaut d'un ton calme, je ne puis, par déférence pour le doyen, qui est saisi de mon rapport, rien révéler de mes observations. À moi, ton cousin. Mon cousin n'est qu'un homme. D'ailleurs, à un jour près, le péril n'aura pas beaucoup augmenté. Toutefois, officieusement, je te recommande. Chapitre 7. J.S. Barclay. Il s'interrompit. Un bruit de voix vigoureuse résonnait dans l'antichambre. La bonne criait. « Rien à faire, je vous dis, il ne reçoit pas. » Un timbre étranger, sonore, répondait. « Et moi, je veux le voir, je veux. » La bonne criait de plus en plus fort et brusquement se tut. Un moment après, elle se présenta assez penaude. « Ce monsieur, dit-elle, a insisté tellement. Il vient d'Amérique. D'Amérique ou d'Anières, je ne veux voir personne, dit Galfaut avec une douce fermeté. » Cependant, Parmesif avait regardé la carte et lu. J.S. Barclay, Philadelphia, USA. Galfaut poursuivit. Quelques placiers en appareil. Les Américains sont de grands producteurs. Parmesif, qui réfléchissait, s'écria. J'y suis. Barclay de Philadelphie. Ou je me trompe fort, ou c'est un multimillionnaire. Sûrement, dit la femme de chambre. Après quoi elle se mordit les lèvres. Parmesif continua. J'ai vu sa photographie. Je le reconnaîtrai. Reçois-le, mon petit, tu n'as rien à y perdre. Soit, dit Galfaut. Quand ils furent seuls. Si Barclay s'est dérangé, mon cher, c'est qu'il s'agit d'une affaire considérable. C'est un gros manieur d'argent, un des plus riches propriétaires du Klondike. À ce moment, un personnage râblé, à la tête ronde et rose, aux moustaches taillées ras, vêtu d'un costume couleur tabac, fit une rapide entrée. « C'est lui !» murmura Parmesif à Galfaut. L'Américain n'entrait d'ailleurs pas seul. Une jeune fille suivait, d'une beauté, d'une rousseur, d'une sveltesse idéale. Vêtue d'une robe de mousseline blanche, légèrement décolletée, qui dégageait une nuque gracieuse, son sourire gai, aux dents éblouissantes, illuminait le petit salon. L'étranger, la paume ouverte, hésitait entre les deux hommes. « Monsieur Galfaut ?» Et, sur un mouvement du savant, « Enchanté, ici J.S. Barclay de Philadelphie et sa fille Winnie. » Elle sourit archangéliquement. « Bonjour, monsieur, dit-elle, en tendant une main fine et vigoureuse à Galfaut rougissant. « Présente-moi, lui dit tout bas Parmussif. « Oh, pardon, mon cousin Gustave Parmussif, lieutenant-gouverneur du Gabon. » Parmussif salua protocolairement. Barclay lui secoua la main et reprit en un français compréhensible et incorrect. « Si vous permettez, seyons-nous. Je m'explique. Nous sommes venus, ma fille et moi, villégiaturer à Paris. Aurora s'intéresse beaucoup à votre littérature et je me présentais ce matin au secrétariat de la faculté pour l'inscrire au cours du professeur Poole à propos de votre Baudelaire. « Oh, I am fond of Baudelaire !» soupira la jeune fille en levant au plafond des yeux pareils à deux lacs verts. Puis nous nous promenâmes à travers la Sorbonne en admirant les tableaux et les fresques des couloirs. Nous nous enfonçâmes ainsi de la faculté des lettres dans celle des sciences. Là, devant un bureau, je vis deux messieurs fortement décorés parler avec animation. Tout en examinant un bas-relief, je prêtai l'oreille. L'un, qui avait une longue chevelure grise et un menton crochu, le doyen dit Galfaut, disait à l'autre qui possédait deux nez, enfin un nez pareil à une double pomme, je vois qui c'est. Alors, il lui disait, le rapport de ce Galfaut va produire un coup de tonnerre. Oui, un coup de tonnerre, il a dit. Et l'autre a ajouté, demain quelle chasse au... Ils s'éloignèrent, je n'entendis plus rien. Mais j'avais retenu le nom, Galfaut. Au secrétariat de la faculté, j'appris que vous possédiez un laboratoire de radiophysique parfaitement. Mais ni au secrétariat, ni à votre laboratoire, d'ailleurs bouclé, je ne pus obtenir votre adresse privée. Des ordres ont été donnés à cet effet. Well. Mais votre adresse, je l'ai eue tout de même, comme tout ce que je veux. Et maintenant, voici. Puisqu'il y aura chasse, il y aura recherche d'un produit. Vous me révélez le nom de ce produit tout de suite. Dès ce soir, je lance toutes les commandes possibles. Demain, je suis le propriétaire des plus importantes quantités. Et demain, en même temps, vous touchez au bureau de l'American Eagle le chèque dont j'attends que vous disiez le montant. » Tout en parlant, il sortait de sa poche un carnet à souche et un stylographe. Galfaut demeurait interdit. Parmussif posait avantageusement. « Quelle somme, monsieur ?» répéta Barclay, le stylo levé. « Monsieur, répondit Galfaut en rougissant encore, je ne suis pas un homme d'affaires, mais un homme de science. Je ne saurais vous vendre le nom ou la formule d'un remède dont la connaissance se trouve nécessairement emportée par celle de la cause du fléau. Il n'aura rien, absolument rien de secret. Et par conséquent, je ne me considère pas comme possédant le droit de vous le vendre. » Ce disant, Galfaut reçut dans les côtes un coup de coude de Parmussif. Miss Winnie prit la parole. « Monsieur Galfaut, ce que vous dites est très joli, très français, mais il faut faire ce que je vous demande. Vous allez dire à mon papa tout de suite le nom du remède et j'écrirai, moi, quelque chose sur le chèque que papa signera. Voilà. » Elle joignit l'acte à la parole, tendit le carnet à son père, qui signa et posa le chèque sur la table. Galfaud protestait. « Non, c'est inutile. » Et, révélant ce qu'il aurait eu, sans doute, si Barclay était venu seul, il déclara « Le remède, c'est le plomb. »
« Le plomb ?»«
Oui, monsieur, je vais vous expliquer. » « Pas la peine. Je n'ai pas une minute à perdre pour passer mes ordres. J'achète immédiatement tout le plomb disponible. »
« Aurora ?»«
Papa, vous venez, mon enfant. » « Vous avez acheté toute une bibliothèque pour le cours du professeur Poole. »«
Non, papa, j'ai changé d'avis. La poésie ne m'intéresse plus. Je vais travailler la radiophysique,
avec M. Galfaud s'il y consent. »« Si j'y consens, oh, mademoiselle, quand me montrez-vous votre laboratoire? Demain ?»«
Parfaitement, mademoiselle, demain. »
Galfaud regarda longtemps la porte par où Miss Barclay avait disparu à ses yeux. Cependant, Parmesif examinait le chèque. « 5 000 $, dit-il, c'est gentil. N'empêche, à mon avis, tu es roulé. Il fallait passer un contrat d'association et prévoir une part sur les bénéfices.
À présent, m'expliqueras-tu ?»«
Demain, » murmura Galfaud, comme transporté dans un rêve. Et Parmesif ne put dissiper la songerie de son cousin. Chapitre 8. Un rapport sensationnel. Au surplus, sa curiosité fut, avec celle du monde entier, satisfaite le lendemain matin. Jamais les journaux ne parurent orner d'aussi gigantesques manchettes. La pelade universelle vaincue, son triomphateur Stéphane Galfaud. Victoire de la science française, un jeune savant a terrassé le fléau. L'esprit triomphe de la matière par la découverte de Stéphane Galfaud. Suivait sur le mode pindarique divers péants en l'honneur du maître. La plupart des feuilles, d'ailleurs, prirent sur elles d'expliquer sa découverte, soit en résumant, soit en paraphrasant son rapport, et publièrent en conséquence de ténébreux éclaircissements. Quelques-unes, plus avisées, se bornèrent à reproduire les termes du rapport. Il était ainsi conçu. Monsieur le doyen, il y a un mois environ, je crus constater dans le fonctionnement des appareils très sensibles qui composent les laboratoires de radiophysique que vous avez bien voulu m'attribuer, certaines perturbations inexplicables. À intervalles, d'abord éloignés, puis plus proches, ils se trouvaient brusquement déchargés sans motif de leurs charges électriques. Je demeurais fortement troublé quand, au cours de recherches spectrographiques, je remarquais l'apparition de raies nouvelles dans le spectre du Soleil, raies tout à fait distinctes de celles étudiées par Fraunhofer et si complètement repérées par Angstrom. Ce fait me donna l'éveil. Ayant chargé un électroscope, je fis tomber sur lui un rayon de soleil et je vis presque immédiatement la feuille d'or retombée au zéro de la graduation. Ma conclusion était donc celle-ci. La radioactivité du Soleil s'était subitement accrue dans des proportions telles que les effets s'en devaient manifester aussi rapides que violents. Mais pourquoi le fléau avait-il commencé à produire ses effets sur l'équateur pour tendre ensuite vers les pôles? C'est évidemment parce qu'à l'équateur, les rayons du soleil tombant d'aplomb, son surcroît de radioactivité s'est manifesté plus vite. À mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, les rayons tombent plus obliques, en vertu de la loi bien connue du cosinus. Ils possèdent donc moins de puissance. Et c'est pourquoi le phénomène, qui en réalité a commencé partout à la fois, apparut remonter de l'équateur au pôle. Quant à ses effets, ils se sont trouvés être immensément amplifiés, ceux d'une source de rayons gamma. On sait que parmi les agents physiques, ces rayons se placent au premier rang par leur nocivité. Non contents d'agir en surface, comme les rayons calorifiques lumineux et ultraviolets, ils agissent en profondeur, à cause de leur propriété de traverser plus ou moins les divers tissus de l'organisme. Ils exercent sur toutes les cellules vivantes une action pernicieuse, notamment sur celle de certains organes, qui sont les organes génitaux, les ganglions, les globules blancs, la peau. Bref, même à une faible dose, les rayons gamma provoquent une sénescence active de toutes les cellules vivantes et leur mort définitive si la dose a été suffisante. Or, tous les phénomènes observés sont à l'évidence identiques à ceux que déterminent les rayons gamma. N'étant pas docteur en médecine, je n'entrerai pas dans le détail des syndromes dont je n'ai fait qu'esquisser sommairement la pathogénie. Les lésions de la peau ont été les plus rapides, les plus fréquentes, les plus complètes. On a vu des lésions d'érythème, des troubles trophiques des ongles, des démangeaisons très pénibles. On a constaté des vertiges, des douleurs, des palpitations, de la leucopénie. Et les nécropsies ont confirmé l'existence de toutes les lésions internes dont je viens de rappeler la série. Comment parer au péril? La gravité des accidents passés, présents et futurs nécessite la création, dans le plus bref délai possible, de tous les moyens de protection connus contre la radioactivité solaire. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est qu'un seul produit, un seul, qui se montre complètement opaque aux rayons gamma, le plomb. Le plomb, soit isolé, soit entrant comme composé dans le verre ou le cristal, la toile ou le caoutchouc. À cet égard, les radiologistes nous montrent la voie. Ils possèdent des appareils protecteurs assez complets. La défense des mains est réalisée, on le sait, par des gants de caoutchouc plombeux. Celle des yeux, par des lunettes en verre plombeux. Celle du corps, par des tabliers en tissu plombeux. Mais dans notre cas, les rayons dangereux ne proviennent pas d'une source canalisable. Ils environnent l'intéressé de toutes parts, et il y aura dans la pratique un travail considérable d'adaptation de l'existence à ces conditions nouvelles, si, du moins, l'humanité désire, comme il est probable, continuer d'exister. Ce n'est pas ici le lieu d'imaginer des dispositifs protecteurs qui vont sans doute voir le jour par variétés innombrables. Mon objet était seulement de préciser l'origine du fléau, par là, d'en indiquer le remède. Il convient d'utiliser les dispositifs en question aussi rapidement que possible, car actuellement déjà, et sans que nous nous en doutions encore, les rayons gamma ont commencé, même dans ce pays, leur ravage silencieux sur nos organismes. J'estime que dans la quinzaine qui suit, si aucune précaution n'est prise, nous aurons les premiers accidents graves à déplorer. Chapitre 9. La course au plomb. L'équité ordonne de relater qu'en même temps que M. Galfaud, d'autres radiologistes avaient réalisé des expériences analogues aboutissant à des constatations identiques. Mais il les avait formulées moins vite. La priorité du jeune savant se trouvant donc établie, les rayons radiants du soleil prirent le nom de rayons Galfaud. Il y avait là, sans conteste, une source d'illustration pour ce héros scientifique. Mais nul profit n'en dérivait pour lui, ni pour ceux d'ailleurs à qui le fléau avait jusque-là valu d'honnêtes bénéfices. En quelques heures, tous les médecins et les plus spécialisés perdirent toute leur clientèle. Les pharmaciens se lamentèrent devant leur stock immense et délaissé de pommades, de dépuratifs et d'onguents philodermiques. Si les constatations de Galfaud n'avaient été irréfutables, plusieurs chambres syndicales lui eussent intenté de féroces procès. Personne, au surplus, ne prit garde à ce léger mouvement économique, car on était en proie à de plus pressants soucis. Il s'agissait, en effet, pour chacun, de se procurer sans délai la masse de plomb nécessaire à la protection de sa vie. Le fléau avait atteint le 44e degré de latitude, ce qui représentait pour la France une ligne allant à peu près de Morsin à Puget-Aignan, en conséquence Toulouse-Pelay, comme aussi Mont-de-Marsan, Albi, Avignon et Nîmes. La course au plomb commença donc dans un départ foudroyant. Course au plomb n'est pas dire assez précisément. Il y eut de la part de la foule une ruée vers le plomb ouvré, susceptible de fournir la protection cherchée, et de la part des industriels, ruée vers le métal lui-même. Le cours du plomb connut donc, dans l'intervalle de quelques heures, une hausse vertigineuse. Hausse d'autant plus fantastique que les terrains à minerais se trouvaient la propriété de quelques particuliers ou sociétés qui réglaient à leur convenance le débit de la matière première. Barclay, grâce à l'avance prise sur ses concurrents, était le plus fort propriétaire du métal précieux, le roi du plomb. Les mines de cérusite et de galène, carbonates et sulfures dont on extrait le plomb, sont situées pour la France, en Bretagne et en Auvergne. Barclay, en un temps si court, n'avait pu en acheter que 4. Mais il en possédait une en Amérique, où le minerai de plomb est rare. Et surtout, il s'était assuré la livraison ferme de toute la production disponible des usines. En liaison avec quelques gros financiers, il eut au fait de dominer les cours. Le prix normal du plomb avant la crise était d'environ 40 centimes le kilo. Il passa à 3 francs en 48 heures. Et sans doute, les trusteurs auraient pu le faire monter encore. Mais ils craignirent, avec raison, en cette question d'ordre général, l'intervention des pouvoirs publics. De leur côté, les usiniers constituèrent des cartels. Ils édifièrent en peu de temps, et de même certains revendeurs en gros, d'immenses fortunes. Toutes les installations qui se prêtaient à la métallurgie du plomb furent consacrées à ce travail. Et quelques jours suffirent à modifier toute l'économie de l'existence humaine. Chapitre 10. L'âge de plomb. Ce fut d'abord l'initiative individuelle qui joua. Chaque individu s'ingénia à constituer pour lui-même une protection efficace. Tout ce que les producteurs ou les marchands possédaient de plomb en feuille fut enlevé. Et les acheteurs restèrent dans leur maison, accroupis ou assis sous des lames de plomb pendant toute la durée du jour. Ces personnages fortunés était naturellement l'infime minorité. Sur le conseil de l'Académie des sciences, réunie d'urgence, le gouvernement fit apposer des placards conseillant aux citoyens de passer la journée autant que possible dans leur cave, la radioactivité du soleil se trouvant atténuée par l'épaisseur des murs et conjurée par la couche de terre. Encore fallait-il loger dans des immeubles comportant des caves suffisamment profondes. Ce n'était point le cas des classes les plus pauvres et de la population flottante. C'est pourquoi de fâcheux excès se produisirent. Des équipes de terrassiers volontaires ne se contentèrent pas de creuser des abris souterrains. Elles mirent à nu les canalisations pour s'emparer des tuyaux et produisirent, selon les cas, des inondations et des explosions. La troupe, commandée d'urgence, dut employer la force pour limiter les dégâts. Heureusement, cette période convulsive d'efforts individuels incohérents dura peu. Des scènes analogues, plus ou moins violentes, s'étaient déroulées dans tous les pays. Le courant des transactions mondiales se trouvait presque interrompu et il fallait absolument prévoir, puis construire, les dispositifs nécessaires pour circuler sans danger d'un État ou d'une région à l'autre, ainsi que pour aller et venir dans l'enceinte d'une même cité. À la première fin, un grand nombre de locomotives et de wagons furent blindés d'épaisses lames de plomb et les compagnies s'ingénièrent à réduire le trafic de jour, à forcer le trafic de nuit. Il résulta de l'encombrement des voies une série d'embouteillages et d'accidents nocturnes. La première conséquence de la mesure prise fut donc une crise des transports de la plus sérieuse gravité. Peu à peu, les choses, comme on dit, se tassèrent. Le trafic maritime se trouva lui aussi considérablement ralenti. Plus même que le trafic terrestre, tout au moins dans les premiers temps. Comme il n'était pas possible de ne faire circuler les navires que de nuit à travers les océans, il fallut retenir successivement tous les vaisseaux transocéaniens dans les chantiers afin de recouvrir le pont d'une couche de plomb suffisante à protéger les passagers. Ce travail modifia par conséquent la stabilité. Ils se trouvèrent, de ce chef, inutilisables et il fallut en transformer la construction. De ce point de vue encore, les premières classes sociales furent plus favorisées que les autres, et certaines bagarres se produisirent que le capitaine du bord ne réprima pas sans peine. Le bonheur de se sentir protégé par du plomb était tel qu'on raconte qu'au moment d'un naufrage, un riche parvenu qui s'était fait tailler un costume en étoffe plombée refusa désespérément de le quitter et plaça par-dessus sa ceinture de sauvetage. Quand il se trouva au contact des flots, il coula naturellement à pic. Tels furent les premiers incidents de la circulation internationale. Ils se renouvelèrent assez longtemps, mais à l'intérieur des villes, une adaptation rapide se produisit aux conditions de la vie nouvelle. 4 jours après la grande révélation, on trouvait déjà dans les magasins des chapeaux, des manteaux, des pèlerines taillées dans cette étoffe plombée qui sert à fabriquer les tabliers des radiologistes. Pareillement, des gants et des chaussures de plomb. Mais ce n'était là qu'un pis-aller. D'abord parce que ces vêtements et accessoires, hâtivement fabriqués, n'étaient utilisables que par les personnes de taille moyenne. Ensuite, parce que, même pour celles-ci, ils représentaient un tel poids que la marche et même tout mouvement devenait extrêmement pénible. Le chapeau pesait environ 3 kilos. C'était un véritable casque qui occasionnait des céphalgies. Les chaussures, du poids de 7 kilos, clouaient les pieds au trottoir. La tiraille d'un scaphandrier, au regard du complet antiradioactif, était ce qu'est au bourgeon et au pantalon à côtes de l'ouvrier une aérienne tenue de soirée. Pourtant, ce fut un tel costume que se disputèrent les gens les plus riches. Les pauvres s'en trouvèrent privés. De là, résultèrent quelques pillages de boutiques qui furent violemment réprimés. Le gouvernement, très ému, résolut de prendre des mesures générales, mais il ne savait trop lesquelles. Par bonheur, la tâche se trouva allégée grâce à un seigneur Lopez, marchand de parapluies espagnols. Il vint au dit Lopez Une idée simple en vérité, mais qui fut estimée géniale et qui connut un éclatant succès. L'idée d'un parasol en plomb qu'il baptisa le pararet. Cet abri portatif assurait une protection immédiate, sinon complète. Mais le pararet se révéla peu pratique, car confectionné en hâte et par série, il ne pouvait se refermer. C'était en somme un pesant et volumineux champignon sous lequel il était à la rigueur possible de se promener dans la rue, mais qui occasionnait de graves désagréments à l'intérieur des maisons. Comme il était plus large que les portes à simple battant, c'était une grande complication que de passer d'une chambre à l'autre. Et le spectacle de plusieurs membres d'une même famille, allant et venant sous le pararet à travers leur appartement, maugréant et sacrant lorsqu'ils se rencontraient, était du comique le plus affligeant. En outre, toute une série d'êtres humains, même de la plus haute situation sociale, ne pouvaient en être munis. Les enfants. Les fabricants, en effet, n'avaient pas encore eu le loisir de réaliser de petits pararets. Les grands étaient trop pesants et entraînaient dans leur chute leurs menus porteurs terrifiés. Les bébés, eux aussi, restaient sans protection, car il était très mal commode de soutenir en même temps le pararet et le nourrisson. À la honte de l'humanité, quelques femmes abandonnèrent le second pour le premier. Un moyen de fortune fut inventé. On traîna les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans dans des voiturettes couvertes d'une bâche plombée. Et surtout, on les maintint au logis sous de petits toits de plomb en feuilles avec défense de bouger. Cette interdiction, qui entraînait celle de se livrer à leur jeu coutumier, entraîna une épidémie inconnue jusqu'à ce jour de mélancolie infantile. En outre, toute une catégorie d'êtres vivants demeurait encore sacrifiée, les animaux. Ils étaient intéressants dans la mesure où ils servaient aux hommes. Il fallait donc protéger les bêtes de somme, de basse-cour et le cheptel. La chambre connut des séances tumultueuses. Bien entendu, on avait commencé par couvrir d'une impénétrable carapace de plomb le palais Bourbon, le Sénat, l'Élysée, la Banque de France et tous les immeubles administratifs, l'existence des personnages officiels étant à leurs yeux la plus précieuse de toutes. Mais il fallait songer aussi à sauvegarder celle de la nation, notamment la personne de ses soldats et de ses enfants, car des représentants sans nation n'auraient plus représenté qu'eux-mêmes, c'est-à-dire peu de choses relativement au reste. Tout le plomb disponible fut donc réquisitionné par l'État, et les trusteurs y trouvèrent leur compte. On s'aperçut, un peu tard, qu'il aurait été expédient de le taxer avant d'en opérer la réquisition. Et de longs débats relatifs à cette taxe commencèrent, sans d'ailleurs aboutir, dans les assemblées nationales. Cependant, les pouvoirs publics ne demeuraient pas inactifs. S'inspirant du modèle pararet, ils firent construire d'immenses abris revêtus de coupoles plombées. Là-dessous eurent lieu les marchés. Ils firent revêtir de plomb les hôpitaux, les théâtres subventionnés et les écoles. Mais la protection des maisons demeurait l'affaire des particuliers. Une multitude de procès surgit entre locataires, chaque partie imputant à l'autre le devoir de protéger les locaux et de payer cette protection. En outre, certains immeubles s'effondrèrent pour n'avoir pu supporter le poids supplémentaire de plomb qui leur avait été brusquement infligé. une question d'égale gravité devenait celle de l'éclairage. Garnir les fenêtres de plomb, c'était supprimer la lumière. Il existait bien un verre plombeux, celui qui sert à fabriquer les lunettes des radiologistes, mais en très petite quantité et d'un prix extrêmement élevé. L'humanité, enfermée dans des lieux obscurs durant le jour, s'éclaira donc pendant plusieurs semaines à la lumière artificielle, d'où résulta une hausse excessive du prix des moyens d'éclairage. Sur ces entrefaites, un chimiste italien, le docteur Finoli, découvrit une formule de verre opaque aux rayons radioactifs et translucides. C'était un silicate de plomb, de thorium et d'étain, obtenu par la fusion en partie déterminée de sable pur, d'aluminium, de thorianite et de bioxyde d'étain. Ce verre ne donnait qu'une vision brouillée, mais il permit de revivre chez soi à la clarté du soleil. En même temps, les usines commencèrent à livrer en grand nombre des feuilles de plomb de tout gabarit qui servirent à tapisser les murs des pièces constamment habitées. Et le gouvernement sut prendre une sage mesure. Afin d'empêcher les accapareurs de tapisser de plomb plus de pièces qu'il ne leur en fallait pour vivre, il institua une carte de plomb, donnant droit à un métrage protecteur de 4,90 m par personne. Prime aux familles nombreuses, qui fut très populaire. Ce système, sauf quelques passe-droits, fonctionna régulièrement. Mais enfin, la vie sociale est surtout extérieure aux habitations. Aussi, l'industrie du vêtement, sous l'empire de la nécessité, fit-elle des progrès étonnants. Les étoffes se tissèrent rapidement en toutes couleurs. Mais toutes ces couleurs mêlées au plomb restaient dans la tonalité sombre, donnant à l'ensemble du costume un aspect métallique du plus étrange effet. Les bons faiseurs taillèrent des habits non dépourvus d'une massive élégance. Pour les hommes, la mode du début fut au long par-dessus, raglan, au chapeau melon à grand bord déclive qui masquait le visage et la nuque au soleil. Gants de plomb mousquetaire pour cacher le poignet. Chaussures d'étoffe, car on n'avait pas pu apprêter du cuir au plomb. Pour les femmes, d'amples manteaux, des chapeaux de toutes formes emboîtant profondément la tête. Et il était assez divertissant de voir des ornements légers, tels que la plume, le tulle et la dentelle, surmontés des coiffures si lourdes. Il faut d'ailleurs relater que la migraine devint endémique, surtout chez les personnes obligées de circuler dans l'air confiné et de voyager sous la terre, comme dans les chemins de fer métropolitains. En vérité, rien n'était plus vexant que de se sentir accablé par la chaleur et le poids d'un vêtement tout à fait inutile dans le trajet souterrain. Mais où et comment installer des vestiaires? Les chemins de fer métropolitains perdirent de ce fait beaucoup d'une clientèle qu'on eût cru devoir augmenter au contraire, puisque les déplacements sous terre offraient pleine sécurité. C'est ainsi que la réalité se charge souvent de démentir les inductions les plus logiques. Mais si les voyages à l'air libre connurent un regain de faveur, le travail sédentaire, dans les mêmes conditions, fut délaissé autant que possible. Combien il était en effet plus agréable de travailler sous terre dans le costume du passé que par-dessus, dans la cuirasse nouvelle. C'est pourquoi les emplois d'égoutiers, de mineurs, de tonneliers devinrent extrêmement recherchés par la masse des ouvriers. Pour les employés de commerce, ce fut une faveur insigne que de travailler dans les sous-sols. Il résulta de ces préférences une grande perturbation dans l'échelle des salaires par suite des grèves rudes et fréquentes. Mais comme il fallait bien, somme toute, chercher le travail où il était, l'existence des prolétaires ne vit pas ces conditions sensiblement modifiées. En revanche, celle des oisifs se transforma complètement. Ils ne sortirent presque plus de jour. La vie mondaine devint surtout nocturne. Les belles élégantes ne pouvaient se résoudre à endosser un si pesant appareil vestimentaire. Elles demeuraient assises ou couchées jusqu'à la nuit, sous de magnifiques dais plombés offerts par leurs admirateurs. En cas d'urgence, elles pénétraient dans des automobiles blindés et se faisaient conduire aux emplettes ou au plaisir par des chauffeurs en livrée de plomb. La mode s'établit d'aller déjeuner dans les caves des restaurants réputés. Là, parmi les celliers aux bouteilles étincelantes sous les illuminations, entre les tonneaux et les muides vernissés, sur un tapis de sable fin, des convives raffinés s'attablèrent devant les mets les plus délicats, non sans avoir choisi eux-mêmes et sur place, ce fut la folie du moment, les vins qu'ils allaient déguster. Dans les rues, l'aspect général des passants, qui avait d'abord été celui de pachyderme, devint, grâce à l'ingéniosité des tailleurs et des couturiers, celui de gigantesques insectes. Les manteaux de toutes sortes, très amples, aux couleurs de métal sombre, semblaient les élytres d'énormes coléoptères, surtout chez les femmes, qui accusaient encore la ressemblance par leurs chapeaux à aigrettes, pareils à des antennes, et par leurs jambes fines, semblables à des pattes de scarabée. Les omnibus automobiles évoquaient les engins de guerre que l'on a dénommés des tanks. Les chevaux, attelés ou montés, étaient caparaçonnés de plombites, grosses toiles plombées, solides et peu coûteuses. Et les chiens, du moins les chéris, trottaient entièrement couverts d'un petit manteau de plomb à quatre manches qui leur protégeait corps et membres, mais comportait l'inconvénient de les entraver dans leurs ébats. Dans l'ensemble, l'aspect des rues, tant par l'enveloppe obscure des êtres que par le revêtement plombé des maisons, devint grisâtre, attristant. Certains immeubles, pourtant, demeurèrent plus longtemps que les autres dépourvus de toute protection. Les casernes. Des formalités administratives, projets, devis, états de toutes sortes, retardèrent réglementairement la pose de revêtements protecteurs. En même temps, une commission étudiait un projet d'uniforme plombé que suivit un contre-projet auquel succédèrent plusieurs autres. Les savants purent donc observer de loisir sur les soldats les effets subséquents de la radiopathie. Irritabilité extrême, anémie intense, perte de force, trouble de la vue, chute absolue des cheveux, des cils, des sourcils, de la barbe, érythème aigu, souvent accompagné de plaies de toutes les régions du corps exposées aux rayons solaires. Pour parer à ces désastreuses conséquences, on accorda toutes les permissions compatibles avec le souci de la défense nationale. Les militaires purent ainsi aller s'abriter dans le civil. Une arme, entre autres, donnait aux autorités de fortes inquiétudes, la cavalerie. Comment maintenir les montures en état de rendre des services? On rassembla d'urgence les régiments montés en des pays de vignobles et l'on descendit les chevaux dans les caves immenses des grands producteurs. En fin de compte, l'administration passe à marcher pour 1 million de casques et de manteaux plombés, d'un modèle qui se recommandait par sa grâce, pesante et guerrière. le ministre de l'Agriculture se trouvait en face de problèmes pour le moins aussi angoissants. Dans la plupart des communes, les paysans, insouciants, n'avaient pris aucune mesure protectrice. Il fallut la pelade et quelquefois la mort de nombreux animaux pour forcer leurs propriétaires à utiliser le plomb en feuilles déposé dans les mairies par les soins des préfets. Une autre question restait à résoudre. Il ne s'agissait pas seulement de conserver les animaux, mais aussi leur nourriture. Or, les herbages dépérissaient. Les prairies grasses et vertes naguère roussissaient, pelaient par espaces immenses, et la terre nue et rouge apparut comme la peau du sol écorchée. La destruction des végétaux constituait le pire désastre, car sans plantes, plus d'animaux, et sans animaux, plus d'hommes. La conception qui sembla la plus pratique fut d'élever, sur de larges étendues, des charpentes que l'on toitura de verre plombeux, et l'on rassembla le cheptel sous ses abris à pâturage. Sous le verre au plomb, la prairie vécut. Partout ailleurs, elle végéta, puis inclina vers la mort. Quant aux arbres, nul remède. Ainsi, l'été naissait à peine et déjà se mourait un paysage d'automne, ou plutôt un paysage d'aspect rude, morne et brûlé, tel qu'aux approches des grands déserts. Il semblait qu'une lèpre issue des abîmes rongea lentement la chair terrestre jusqu'aux pierres qui sont ses os. Et, dans les pays sauvages, les peuplades décimées s'entr'égorgeaient sans merci, chacune attribuant le fléau à la malice de ses voisines. Les nations policées avaient du moins l'esprit de ne s'en prendre qu'au destin, et arrivait peu à peu, par la solidarité des recherches et des efforts, à en tromper la cruauté. Mais l'existence était devenue pesante et grise. L'humanité avait été heureuse pendant l'âge d'or, active pendant l'âge d'argent, belliqueuse pendant l'âge de fer. Elle devint neurasthénique. Et ce fut l'âge de plomb.